Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour l'émission des ados du foyer laïque de Samar. On a travaillé 4 jours pour cette première émission. On accueille Lila Le Trividi qui est sociologue à l'université de Brest. On accueille Wentou qui est graffeur et qui a réalisé l'affiche des 100 ans du foyer laïque de Samar qui est juste ici. On accueille Alain Juisse, adhérent de longue date au foyer laïque de Samar. On le surnomme le dinosaure. Maintenant, je vous laisse avec Yohan pour la première chronique.
Bonjour à tous, je m'appelle Yohan, j'habite à Lambézélec. Je vais vous présenter ma journée en tant qu'ado de 14 ans. 6h, je me lève. 6h10, je vais prendre ma douche. 6h30, je me prépare mon sac. 7h10, je sors de chez moi. 7h20, je suis déjà dans le bus. Je fais 20 minutes de bus pour arriver au coulage de l'Iroise. Je vais à 8h et je finis à 8h30. Je prends un nouveau bus à 6h37 pour rentrer à Lambézélec. Puis je vais chercher mes petites sœurs et frères. Ensuite, je vais à l'entraînement de foot de 18h à 19h30. Je finis l'entraînement pour reprendre le bus chez moi à 20h30. Pas le temps de rester avec ma famille pour faire des sorties, pour prendre des repas ensemble. Pas de temps avec mes amis. On se sent comme des robots.
Maintenant, nous accueillons Lila Le Trividi, qui est sociologue à l'université UBO. Alors Lila, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sociologue ?
Tiens, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour. Et qu'est-ce qui m'a donné envie d'être sociologue ? C'est une vaste question. Je pense que c'est peut-être une sensibilité à la question des injustices et des inégalités qui m'a beaucoup marquée quand j'étais adolescente, quand j'avais à peu près votre âge en fait. Et en fait, j'ai découvert par l'intermédiaire d'une prof de français qui nous a fait rencontrer un écrivain qui était aussi sociologue, qui s'appelle Azouz Begay, que la sociologie existait, qu'on pouvait faire une science qui travaille sur les règles d'organisation dans la société et comment ça pouvait mener à des inégalités. Et voilà.
D'accord. Comment expliquerez-vous la sociologie à quelqu'un qui n'en a jamais fait ?
Bah, c'est une très bonne question. La sociologie, c'est donc une science qui étudie la façon dont les sociétés sont organisées, les règles qui organisent cette société. Donc en gros, la sociologie, ça étudie la dimension sociale de nos existences. Et si je voulais prendre un exemple, peut-être, là, par exemple, si on est tous ensemble, là, si je me mets à me lever pour aller faire mes besoins dans le coin de la pièce, vous allez toutes et tous trouver ça vraiment très bizarre, complètement déplacé. C'est pas normal de faire ses besoins dans une pièce commune devant tout le monde, etc. Ben ça, c'est ce qu'on appelle une norme sociale. C'est-à-dire que ben, y a des façons de faire, des règles. En fait, on ne fait pas ses besoins devant les autres dans notre société aujourd'hui. Mais si on était il y a 700 ans, finalement, peut-être que ça aurait été complètement acceptable de faire ça. Aujourd'hui, ça n'allait pas. Et donc, la sociologie, elle étudie ça. Comment ces règles, elles se sont construites et comment elles se transforment aussi au fil du temps. C'est ça qui nous intéresse. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour le devenir ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude ? Ben, il faut faire... Alors, sociologue, c'est pas très, très bien défini. Mais on peut dire que, en tout cas, pour faire le métier que moi, je fais, il faut faire des années d'études après le baccalauréat. Donc, il faut faire une licence. Après, il faut faire un master. Et après, il faut faire un doctorat. Il faut avoir une thèse en sociologie pour pouvoir ensuite être enseignante chercheuse comme moi à l'université.
Qu'aimez-vous le plus dans votre métier ?
Bah, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est justement de questionner un peu les évidences du sens commun. C'est-à-dire, on a des façons de faire, des façons de s'organiser qui sont comme ça, qui nous paraissent vraiment évidentes. Et quand on se rend compte qu'elles ne le sont pas, que ça peut être autrement, que ce n'est pas comme ça pour tout le monde, bah, en fait, moi, je trouve ça hyper, hyper passionnant. Je trouve ça vraiment intéressant.
Selon vous, à quoi sert la sociologie aujourd'hui ?
Ben, ça sert à montrer, mettre en lumière les, justement différentes façons qu'on a de s'organiser dans la société et aussi qui peuvent, en fait, certaines injustices aussi qui existent dans la société, elles peuvent être montrées, mises en lumière par la sociologie pour montrer que c'est pas parce que c'est comme ça que ça doit rester comme ça et que c'est naturel, que c'est une fatalité. Justement, en montrant comment ça fonctionne, comment ces inégalités ou ces injustices, elles se fabriquent, et ben on peut donner des prises aux personnes pour qu'elles s'inscrivent contre en fait, ces situations, par exemple.
Est-ce que c'est une discipline qui peut aider à mieux vivre ensemble ?
Je pense, oui, mais voilà, c'est peut-être un peu utopique.
À quoi ressemble une journée pour vous ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une journée type, mais... je peux faire, comme je suis enseignante chercheuse à l'université, donc ça veut dire que j'ai une partie de mon temps de travail qui est dédiée à préparer des cours et faire cours auprès d'étudiants, avec des étudiantes et des étudiants de tous les niveaux à l'université. Donc une partie de mon temps de travail, c'est ça, c'est d'être face à des étudiants, comme vous êtes face à des profs, voilà, c'est dans l'autre sens, de travailler avec eux et elles, de leur enseigner la façon dont on fait de la sociologie. Et puis une autre partie de mon temps, c'est aussi de réaliser des enquêtes, de faire de la recherche en sociologie. Donc ça veut dire aller faire des entretiens avec des personnes pour essayer de recueillir leur point de vue sur, je sais pas moi par exemple, sur les pratiques numériques des adolescentes et adolescents et le lien avec leurs pratiques scolaires. On va aller faire de l'enquête auprès de ces jeunes, soit par questionnaire, soit aussi par entretien ou observation pour voir comment est-ce qu'ils utilisent en fait ces nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Et comment est-ce qu'ils les utilisent pour aussi l'école. Parce que, je termine rapidement, mais on a mené une enquête avec des collègues il y a quelques années. Il y a beaucoup de discours qui circulent quand même sur les jeunes et les écrans. Voilà, vous le savez bien. Et notamment, il y a une idée qui circule souvent selon laquelle utiliser les écrans et Internet, ça irait forcément en concurrence avec les apprentissages à l'école. Or, ce qu'on a montré dans notre enquête, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça va aussi un peu à l'encontre des évidences qu'on peut avoir dans le sens commun, la sociologie. Ce qu'on a montré dans l'enquête, c'est que oui, ça peut entrer en concurrence, bien sûr, mais la majorité aussi des collégiens, parce qu'on avait enquêté sur les collégiennes et les collégiens, ils prennent du temps aussi pour aller faire des recherches sur Internet pour répondre aux questions qui se posent et qu'elles se posent pour le travail scolaire. Donc, il y a aussi des apprentissages scolaires qui peuvent se faire par le biais des écrans, d'Internet, etc. Voilà.
Qu'en pensez-vous de ce que mon collègue Yuan vient de dire sur la journée scolaire ?
J'en pense que c'est une journée qui est très, très cadrée. Enfin, voilà, il y a très peu d'espace, effectivement, pour dormir, pour s'ennuyer, pour discuter aussi avec d'autres personnes. Vous parliez de vos amis, que vous n'avez pas vraiment le temps de passer du temps avec elles et eux. Effectivement, c'est une journée qui est très, très scandée, avec une place de l'école qui est vraiment très importante. C'est vraiment beaucoup d'heures par jour. Tous les collégiens, collégiennes, écoliers, écolières et lycéens, lycéennes le savent, même les étudiants, même si c'est moins de temps. Ça prend une place très importante dans la vie et pour autant, ce n'est pas toujours une expérience très agréable. Enfin, ça dépend un peu des situations.
Il y a ma collègue Shaina qui voulait vous poser des questions à vous aussi.
Merci.
Bonsoir Lila.
Bonsoir.
Après le sujet que vous avez abordé avec mes amis, j'aimerais vous poser quelques questions sur un autre sujet. Est-ce que selon vous, les personnes de couleur ont plus de difficultés pour trouver un travail ?
C'est une très bonne question aussi. Moi, je n'ai pas enquêté spécifiquement sur ces questions. Et une des difficultés qu'on a en France pour répondre à votre question, c'est qu'on n'a pas de ce qu'on appelle des statistiques ethniques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de statistiques sur, par exemple, les statistiques publiques ont l'interdiction de dire combien il y a, par exemple, de personnes noires ou de personnes arabes qui occupent tel ou tel type de poste. Par contre, il y a beaucoup d'enquêtes depuis plusieurs décennies maintenant qui elles font le travail de regarder est-ce qu'il y a vraiment de la discrimination massive envers les personnes qu'on appelle racisées, donc personnes qu'on va identifier au groupe des personnes noires ou des personnes arabes. Et effectivement, il y a de la discrimination à l'embauche beaucoup plus fortement pour ces populations-là que d'autres populations qui sont pas identifiées comme appartenant à ces groupes. Donc là, on a une belle injustice, par exemple.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, les femmes ont le même salaire que les hommes ?
Ça aussi, c'est un autre bel exemple d'injustice. Les femmes sont structurellement moins bien payées que les hommes. En moyenne, elles touchent moins à diplôme et poste égal. Elles touchent moins que les hommes. Et ça se perdure au fil de leur vie, y compris ça se répercute sur leur retraite, etc.
Que pensez-vous de la discrimination envers les personnes transgenres ?
Vous avez aussi raison de soulever cette question parce que, les personnes transgenres, elles sont particulièrement aussi, c'est des personnes qui sont particulièrement discriminées, notamment, elles font par exemple, comme les femmes, mais parfois encore plus que les femmes, elles font l'objet de violences sexistes et sexuelles très, très importantes. Donc c'est effectivement des discriminations qui sont graves, en fait, hein, qui peuvent aussi atteindre à leur vie, en fait.
Que pensez-vous des stéréotypes sur les personnes de couleur ? Par exemple, les Noirs courent vite, les Arabes volent, ou les Chinois mangent des chiens, etc.
Comme tous les stéréotypes, ils sont problématiques parce que le principe des stéréotypes, c'est qu'on prête à un individu des traits, des attitudes, des comportements qui sont naturalisés, c'est-à-dire on fait comme si c'était c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. On prête des traits à des personnes parce qu'on les identifie comme appartenant à un groupe. C'est ce que vous dites quand vous dites cette personne que je considère comme noire, et cette personne, comme elle est noire, je pense qu'elle va courir très très vite. Or, évidemment, c'est faux. Y a évidemment des personnes noires qui courent très vite, mais il y en a qui courent pas vite. Et le problème des stéréotypes, c'est pas parce que dit comme ça, ça peut être un peu drôle, mais en fait, c'est pas drôle parce que ça génère des attentes et ça enferme les personnes dans des imaginaires, quoi. On pense que les femmes sont pipelettes, on a toujours des idées comme ça, les hommes sont violents, ils sont immatures, les filles sont sages, on a plein de stéréotypes comme ça, mais qui du coup peuvent avoir des effets en fait sur la construction des personnes, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi finir par adopter des attitudes qui renvoient à ces stéréotypes et donc d'une certaine manière confirmer le stéréotype, alors qu'à la base il n'y avait pas de raison que ça se passe comme ça. Et l'autre problème évidemment des stéréotypes, c'est que ça peut conduire à des discriminations, là encore très fortes, quoi. Les femmes ou les filles potentiellement elles travaillent bien elles sont pas elles sont pas très malines, alors elles vont pas avoir accès à tel ou tel type d'études, par exemple, ça conduit encore une fois potentiellement à des discriminations.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, je vais passer la parole à Isaac.
Merci à toi.
Est-ce que le public veut des questions ou pas? Je passe la parole à Isaac.
Alors, maintenant, on va continuer avec une musique d'Aril qui interprète Brouillon tout de suite sur Radio U.
J'ai grandi quand les rebeux, c'était pas la mode. J'étais frais jusqu'en 2001, puis je suis devenu moche. Je voulais plus écouter Dry, je voulais écouter Con. J'ai mis tel accent de mon vieux pour faire rire l'école. Même quand j'avais rien fait, j'avais peur, monsieur l'agent, qui m'a dit dans les yeux qu'il voulait que je quitte la France. Me renvoyer au bled, alors je parle même pas la langue. Car mon père pensait que pour m'intégrer, fallait pas me l'apprendre. Rien que je me pose des questions quand j'entre à la maison. Et la maison, c'est où? J'suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon, mais c'est nous. Rien que je me pose des questions quand j'entre à la maison. Et la maison, c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place.
pas bien la langue. La honte, la honte. Ah bon, t'es surpris que j'ai fait des études, pourquoi? Raconte, bah alors, ça compte depuis l'époque de la marraine. Rien n'a changé, c'est pareil. Pour qu'on m'aime, y'a que deux choix. Soit je marque des buts, soit je les fais marrer. Quand je parle bien, je suis invendu. Quand je dis ouais, je fais la cité. Aujourd'hui, c'est brouillon, demain, c'est bien dessiné. Ah. J'avais honte, je ramenais jamais de meuf chez moi. J'avais peur qu'elle tombe sur ma cousine ou ma mère, ma soeur, mon frère, la voisine d'en bas, la caissière, le maire. Oh, rien que je me pose des questions quand je rentre à la maison. Et la maison, c'est où? J'suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon, mais c'est nous. Rien que je me pose des questions quand je rentre à la maison. Et la maison, c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon, mais c'est nous.
Du coup, ce morceau est écrit entre la pop, le rap et le R&B. Dans cette musique, Daryl, le chanteur franco-algérien, raconte les difficultés de sa double culture et de l'espoir suscité dans sa génération. Il parle de cette particularité d'être vu comme un Français en Algérie et un Algérien en France. Daryl a décidé de le transformer en un projet musical à part entière où il exprime le vivre ensemble. Cette chanson nous décrit assez bien ce qu'il dit dans cette partie de la chanson. Pour qu'on m'aime, il n'y a que deux choix, soit je marque des buts, soit je les fais marrer. C'est une façon de dire que souvent les enfants d'immigrés ou et souvent issus de quartiers ne sont que bons à faire du sport et plus particulièrement le foot ou faire rire les autres. Une autre phrase de la chanson qu'on a retenue, faut que je rentre à la maison, mais la maison c'est où? Quand tu es issu de l'immigration et quand tu es par exemple en Algérie, et tu es vu comme un Français, et pareil, l'inverse. Et tout ce qu'il exprime dans sa musique. Je ne connaissais pas la musique et le chanteur avant d'avoir travaillé dessus, mais je trouve qu'elle nous reflète assez bien.
Bonjour, Wentu. On va vous poser quelques questions. Et voilà.
Ouais, je suis prêt, je suis là pour ça.
Alors la première question, c'est... Peux-tu te présenter en quelques phrases? Nom, prénom, âge, ouais, etc. Non.
J'ai 49 ans, donc je suis Gwendaluette. Mon nom d'artiste, c'est Wentu. Je suis brestois et je pratique le street art. En fait, je suis artiste peintre.
Ok. Pourquoi vous avez choisi Wentu comme nom d'artiste?
Il y a une petite anecdote là-dessus. Donc, à la base, j'ai commencé par du graffiti. Donc, on choisit des lettres qu'on aime bien. Après, je m'appelle Gwendal, hein. Je ne suis pas allé chercher loin, j'ai enlevé le G, j'ai enlevé le Dal, j'ai gardé juste le Wen, parce que j'écoutais le Wu-Tang, ce genre de choses aussi, j'aimais bien la lettre W. Et donc j'ai commencé à travailler, à faire des lettres, ces lettres-là, sur les murs, donc Wen. J'ai commencé... Et après j'ai fait Wen One, parce que, alors, pour rajouter plus de lettres. Et en fait, il y a un Américain qui m'a contacté, qui m'a dit « Wen One, c'est moi ». Et je lui ai dit « Ok, t'énerve pas », je lui ai dit « T'es un peu chaud le gars ». Donc j'ai mis un numéro 2 en fait à mon blaze. Voilà, c'est la petite anecdote. Et puis du coup, j'ai plus jamais entendu parler de ce fameux Wen One qui avait vraiment fait des métros à New York et tout. Hein. C'était pas un rigolo, c'était un vrai graffeur de l'underground new-yorkais, voilà, qui m'avait contacté.
Ok, parfait. Pourquoi tu t'es lancé dans le graff et c'est quoi la différence? Avec un tag.
Bon, le tag, c'est juste la signature. C'est la signature vite fait, juste rapide. Alors que le graffiti, c'est vraiment les lettres plus élaborées, en volume, avec de la 3 dimensions, de la couleur, du remplissage. Voilà, c'est vraiment tout simplement ça, la différence entre le tag, qui est dans la rue, à la va-vite, un peu à l'arrache, et le graffiti, qui est quelque chose de plus élaboré. Okay. Et la première question, c'était
pourquoi tu t'es lancé dans le graff?
En fait, je dessine depuis vraiment tout petit. C'était quelque chose, et j'ai fait beaucoup de skateboard plus jeune. Et c'est vrai que le skateboard m'a un peu rapproché de toutes ces cultures urbaines. Donc, je traînais beaucoup dans la rue. Voilà, c'était mon terrain de jeu, c'était la rue, quoi, la ville. Et donc, j'ai commencé à voir un petit peu fleurir des pochoirs des punks, quelques tags, des graffitis. Et vu que je dessinais déjà, moi aussi, ça m'a influencé, en fait, tous ces dessins que je voyais dans la rue. Et j'ai commencé à en faire un petit peu vers mes 15 ans. Voilà. Faut que ça date. Et puis bah, j'ai développé, j'ai continué, et voilà, et j'en suis là aujourd'hui. Mais enfin, c'est un long parcours. Après. On va peut-être en parler plus longuement, mais.
Ok. Où as-tu l'habitude de graffer ?
Bah, avant, on graffait beaucoup sur le port de commerce. Il y a plus beaucoup de. Moi, à vrai dire, aujourd'hui, je fais plus beaucoup de graffiti. Je fais plus vraiment de la fresque, voire des façades aussi. C'est devenu mon métier, donc on fait appel à moi pour mon art. Et je vais m'exprimer vraiment sur des grandes façades, sur des trucs. Et ça peut être partout. Là, en décembre, j'ai été invité à un festival au Qatar. Quoi. Donc je voyage même maintenant aussi grâce à ma peinture. C'est vraiment devenu mon métier. Donc après, voilà, je peins des fois. Il y a des petits endroits qui restent un peu à Brest, le jardin de Kervalon, c'est vers Bellevue. Le port, il n'y a plus grand-chose. En dessous, le pont du Bougain aussi. Voilà, enfin, c'est un peu éparpillé, quoi, les terrains, mais il n'y a plus vraiment beaucoup. Avant, il y avait vraiment un haut lieu, le port de commerce, où tout le monde venait s'exprimer. On était, dans les années 2000, une cinquantaine de graffeurs. Et voilà, tout ça c'était avant.
Ok, maintenant je vais donner la parole à mon collègue Yacine, qui a lui aussi des questions pour vous.
Ouais.
De quoi t'inspires-tu pour tes tags, tes graphes?
Bah moi je m'inspire, après voilà, donc j'ai fait des études voilà, d'art appliqué, tout ça aussi, et un BTS en architecture d'intérieur. Et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en tant que graphiste dans une boîte qui faisait de l'urbanisme. Du coup, je suis vachement influencé par tout ce qui est architecture, les bâtiments, la ville, toutes ces usines désaffectées, les endroits où les graffeurs vont aussi. Donc j'ai développé un univers urbain, mais qui est toujours en lévitation. En fait, c'est des bouts de ville qui sont déracinés du sol, et qui se balade un petit peu dans les airs, donc c'est un peu onirique, et c'est un peu hors du temps aussi, c'est un petit peu comme s'il y avait eu une apocalypse, tout avait un peu éclaté, et puis il restait des petits îlots comme ça, après je suis sorti un peu de la ville, et j'ai fait aussi d'autres choses, avec un peu sur les phares bretons, mais toujours dans ce même principe de lévitation, comme s'il y avait des petites communautés qui vivaient autour, et une vie qui se recréait en fait. C'est ça, ma marque de fabrique.
Quel est ton rapport avec le foyer laïque?
J'ai une longue histoire, en fait. Moi, c'est toute ma famille est passée par là, de mon arrière-grand-père à mon grand-père, mes tontons, mes cousins. Et voilà, j'ai fait du basket au foyer. J'étais à l'école primaire ici à Kérisbillan. Donc, après l'école, je venais ici en garderie. Enfin, c'est une histoire familiale, déjà. Et puis après, des années de basket... ici aussi. Et puis, bah, pour terminer, voilà, la fiche des 100 ans, on a fait appel à moi aussi pour boucler la boucle.
Est-ce que quand tu étais jeune, tu voulais faire ça comme travail?
En fait, c'est pas vraiment un... Donc ouais, aujourd'hui, je suis donc artiste peintre, je fais des fresques, je peins des façades, mais c'est pas un métier qui, il y a 30 ans, on va dire, 35, existait vraiment. Enfin... Le street art, c'est devenu aussi une discipline qui est assez jeune. Le graffiti, tout ça aussi. Et on vient beaucoup du graffiti et on est devenu street artiste après. Donc il n'y a pas une école du street art, quoi, en fait. Tu apprends dans la rue, tu apprends sur les murs, tu apprends... Donc non, je n'avais pas idée de faire ça jeune. Ça, c'est venu au fur et à mesure des expériences et des opportunités, quoi, en fait.
Aurais-tu un conseil à donner aux jeunes qui veulent faire de leur passion leur métier?
Charbonner, quoi. ma passion, c'était le dessin. Donc, j'ai gratté du papier, j'ai gratté beaucoup de feuilles. Puis j'ai essayé de développer des techniques, apprendre l'aquarelle, apprendre la peinture à l'huile, changer de support. Voilà. Mais toujours, pas lâcher l'affaire, quoi. Vraiment y croire. Et puis on verra, quoi. Après, c'est vraiment en travaillant, quoi, aussi, qu'on développe le talent, qu'on développe aussi des facilités sur certaines façons de dessiner des choses ou des machins. Enfin, voilà, c'est vraiment en faisant, quoi.
Et Johan va vous demander si le public, vous avez des questions.
Est-ce que vous avez des questions ou pas?
Mendal, on se connaît depuis quelque temps. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu ne souhaites pas faire de personnage du tout sur tes, tes illustrations ou ton travail? Merci.
C'est une question qu'on me pose. Ouais, en fait, c'est vrai que je ne mets pas de personnage dans mes œuvres. En fait, l'humain est présent par ses constructions. Mais en fait, je trouve que ça m'est arrivé d'en mettre. Hein, mais ça, je trouve que ça fige l'image, un peu comme une photo. Enfin, ça fait une sorte d'instant T quand il y a un personnage. Alors que là, quand il n'y a pas de personnage, on ne sait pas à quelle époque ça se passe. On ne sait pas du tout où, quand, comment. Enfin voilà, ça laisse un peu plus un flou. Mais on voit quand même des fois des silhouettes derrière des fenêtres. L'humain est présent, il y a une fenêtre allumée, il y a une fumée qui sort d'une cheminée, il se passe quelque chose. Et en fait, j'invite les gens vraiment à se projeter un peu dans mes univers et à s'y balader. Et je ne sais pas si le fait qu'il y ait des personnages, je trouve que c'est un frein un peu à cette envie d'inviter au voyage les gens, enfin le spectateur.
Bah, je vais passer la parole à Luan, à Maïka.
Il n'y a pas d'autres questions? Ok.
Avant, le local soit ouvert, on faisait beaucoup de bêtises dans le quartier, mais grâce au local, on devient plus sage. Le local à deux nous a beaucoup apporté. On a eu beaucoup de projets et d'activités, comme par exemple le séjour d'été à Camaré, les sorties au bowling, la patinoire, aux Trois Curés, à Jump Park, à la piscine, le hip-hop, le rap et le graphe. En ce moment, on organise un voyage à l'étranger avec la maison de quartier de l'Ambézélec.
Le local ado est ouvert le mardi soir, le mercredi après-midi et le vendredi soir pendant les semaines de cours. Pendant les semaines de vacances, c'est ouvert tous les jours. On est très reconnaissant de nos deux animatrices, Solveig et Eline, pour les activités et les opportunités qu'elles nous offrent.
Maintenant, Alain, je vais vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, je peux me présenter. Je suis Alain Jouisse. Je suis au foyer laïque de Saint-Marc depuis 1962 ou 63. Et j'ai assumé différentes responsabilités au foyer. Donc, j'ai été président pendant une dizaine d'années. Je suis toujours membre du bureau et du comité directeur du foyer.
Comment avez-vous découvert le foyer laïque de Saint-Marc?
Alors, c'est très simple. J'avais un copain qui était au lycée technique avec moi. Et puis, pendant les vacances de Noël 62, il m'a dit tu viens jouer au ping-pong un petit peu avec moi. Je lui ai dit je ne sais même pas ce que c'est que le ping-pong. Tu vois, je croyais que c'était une activité qui se déroulait. À l'époque, on disait facilement que le ping-pong, le tennis de table, donc, se déroulait dans les bars, à l'arrière des bars, il y avait des billards, il y avait des baby-foot, et c'était un petit peu ça, qu'est-ce qui se passait. Et donc je suis venu avec ce copain-là, et j'y suis resté, tu vois, depuis 60 ans, 60, plus de 60 ans.
Pourquoi avez-vous rejoint le foyer?
Ben, simplement parce que j'avais un copain qui m'a sollicité, qui m'a invité à participer, mais j'avais aussi envie de faire quelque chose, parce qu'à cette époque-là, les activités pour les jeunes, dès qu'il y avait les ados, j'avais à peu près votre âge quand j'ai commencé au foyer, il n'y avait pas beaucoup d'activités. J'ai joué au foot à l'ASB pendant quelques années, et puis, pour certaines raisons, je n'ai pas continué, et j'étais un petit peu dans la recherche d'activités. Il y avait très peu d'activités à ce moment-là. Au foyer, il y avait un peu de basket, et il y avait surtout le cinéma qui fonctionnait pendant le week-end, c'est-à-dire qu'il y avait une salle de spectacle. Le foyer ne se trouvait pas ici à cette époque-là, il était plus près de la mairie de Saint-Marc.
Que vous a apporté le foyer?
Oh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'abord parce que j'ai rencontré énormément de personnes. C'est devenu presque une passion pour moi. J'ai assumé un certain nombre de responsabilités au foyer, et puis ensuite, y compris professionnellement, je pense que ça m'a apporté, puisque j'ai acquis un certain nombre de responsabilités, donc, et ça m'a permis de progresser dans mon emploi. Et puis par la suite, je me suis engagé politiquement, puisque j'ai été élu pendant 3 mandats à la ville de Brest, en tant qu'adjoint à l'enfance, grosso modo à l'enfance, la petite enfance et les adolescents. Je me suis intéressé aussi au patronage laïque, aux maisons pour touche, aux centres sociaux, puisque c'était, à un moment donné, ça faisait partie de ma délégation. Et ensuite, j'ai eu une autre responsabilité, plus sur la partie qui était consacrée aux quartiers populaires de la ville de Brest.
Avez-vous participé à des projets au sein du foyer?
Oh oui, de nombreux projets, puisque quand j'avais votre âge, on a à ce moment-là constitué. C'était un petit peu comme ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire il y avait un local jeune et un moment donné, qui avait été aménagé par des bénévoles et il y a c'est une association qui s'est constituée à ce moment-là. Le club des jeunes s'est vraiment constitué et on a travaillé sur l'organisation, sur les activités que l'on pouvait faire. On a même créé les statuts de l'association. Alors qu'est-ce que c'est que les statuts de l'association? Je ne sais pas si vous savez trop ce que c'est, mais c'était une association qu'on pourrait appeler loisirs associatifs actuellement, loisirs jeunes actuellement. Et donc on a travaillé, on a fait différentes activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. On a constitué une petite troupe de théâtre, une petite troupe de variété, où il y avait du chant choral, du théâtre, des clowns, voilà. Et on s'est déplacé dans différents endroits pour soutenir l'école publique, parce que notre objectif, c'était aussi de soutenir l'école publique, l'école de la République. Voilà.
Pour vous, le foyer a-t-il évolué dans le bon sens ?
Oh, énormément, oui. Oui. Je pense qu'il y a toujours des progrès à faire, il y a toujours des activités qui se développent et il y a encore des choses à réaliser. Récemment, je peux dire qu'avec mes copains, mes amis du comité directeur, on se pose la question parce qu'il n'y a par exemple pas suffisamment d'activités, on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'activités pour les enfants en matière d'activités sportives au foyer. Et donc, on est en train de réfléchir et essayer de relancer cette partie-là. Mais on a d'autres idées, hein. En particulier au niveau de la participation des parents et des familles, on souhaiterait aussi que ça soit un petit peu plus développé. Donc il faut qu'on essaie de trouver des solutions pour aller dans le sens de travailler plus avec les familles, avec les parents.
Lors de la réouverture du local jeune, quel était votre avis dessus ?
Lors de la
réouverture ?
Ah mais il y a eu toute une période où il y avait des jeunes au foyer, et puis il y a eu une période où ça a décliné. Et donc on a relancé un petit peu cette affaire-là, et grâce à des moyens financiers qui ont été entièrement pris en charge à ce moment-là par le foyer, et on a décidé de mettre en place une animatrice jeunesse, en l'occurrence, pour développer cette activité-là. Et Solveig fait bien son travail, on est satisfait de ce qui est fait, vous la connaissez bien, je sens bien que lorsque je vous vois avec elle, il y a des choses qui se construisent maintenant. Ce sont aussi des activités qui se déroulent un peu à l'extérieur, hein, vous employez des mots que je ne comprends pas toujours. Le hip-hop, par exemple, ça ne m'intéresse pas beaucoup, hein, mais j'aurai l'occasion de le voir quand vous ferez le cirque, puisque le cirque s'installera au foyer au mois de mars. Et donc, on aura l'occasion de voir ce que vous faites en même temps que cette excellente opération qui a été organisée par Solveig, par Théo et un certain nombre d'amis. Et c'est vraiment là l'intérêt qu'il y a. C'est que j'ai trouvé, moi, depuis deux ou trois jours que je suis avec vous, je trouve vraiment ça extrêmement intéressant que vous soyez accroché à ce projet-là de radio. Moi, ça m'enthousiaste vraiment. Et je suis vraiment très satisfait. Vous me regardez tous avec des grands yeux. Là, on a l'impression que c'est le dinosaure qui est devant vous, quoi. C'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure.
Pour vous, qu'est-ce que le local jeune apporte au foyer ?
Eh bien, du renouveau. Du renouveau, je pense qu'il faut aussi trouver toujours des formules qui font que... Et puis, la question qui est quelquefois un petit peu, je dirais un peu simple pour les bénévoles et pour les militants que nous sommes, c'est de se dire, on va faire des activités sportives avec les jeunes. Mais je crois qu'il faut maintenant que l'on aille au-delà, c'est-à-dire qu'on ait aussi des temps où les jeunes puissent réfléchir véritablement et construire leur propre projet. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Le projet radio, c'est cet exemple-là. On a d'autres idées, et c'est vous qui avez suggéré de faire un voyage. Je crois que c'est au Portugal, d'après ce que j'ai compris avec Solveig et Théo. Mais c'est ça, c'est construire avec vous, c'est-à-dire être confronté aux difficultés qu'il y a à organiser les choses. Et c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on grandit, comme dirait quelqu'un que vous verrez dans le film du foyer qui va sortir dans quelques semaines.
D'accord, bah, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Lucas et Joshua.
Bah, du coup, je crois qu'on va passer 5 musiques et il y a Yuan qui va passer le micro à ceux qui devinent l'artiste et la musique, je crois.
Et il faudra lever la main aussi pour dire la réponse.
Oui.
Je crois que c'est Ndino d'Ali Koumé.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Bientôt
jour j'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en crête. Pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, ben je disparaîtrai comme Audi.
Du coup, prochaine musique.
Oui. Ramener la coupe à la maison de Verger et Drame.
Casser les manches comme Samuel, M.T.T. Casser les manches comme Samuel, Samuel, M.T.T. Casser les manches comme Samuel, Samuel, M.T.T. Casser les manches comme Samuel, Samuel.
Prochaine musique.
Oui.
Billie Jean, Michael Jackson.
Oui, c'est ça. La prochaine musique.
À l'époque c'était en voile vite, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage.
Oui.
Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné,
sniper gravé dans la roche.
Tu savais pas si bien vite, tu sais que j'en suis dans la vraie vie. Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays et vie, des moments forts avec mon trou qui fait entre nous. Et rendre fiers les autres
musique.
Qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous.
Oui.
Ambiance scandale, danse de vandale, gloire à la rue.
Oui, c'est ça.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur.
C'est terminé.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Je passe la parole à Joshua.
Merci aux invités Lila, Wentou et Alain d'être présents ce soir pour l'émission des ados du foyer laïque de Saint-Maur. Merci aux animateurs du foyer laïque de Saint-Maur, Solveig, Théo et Nadia qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. Et un grand merci à Quentin qui nous a aidés à réaliser cette émission. Et puis on voudrait également remercier la ville de Brest et l'Union européenne qui nous ont soutenus. Qui ont soutenu notre projet dans le cadre du dispositif Science Comes to Town, ainsi que la CAF via l'appel à projet On se lance ensemble.